Ce serait la suite logique.
Mais
nous allons revenir à l'Ancien Testament. Désolé si vous n'avez qu'un petit Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons aborder l'étude du dernier livre de la Torah.
Today we're going to address the study of the last book of the Torah.
Le dernier livre du Pentateuch.
The last book of the Pentateuch.
C'est-à-dire les cinq livres écrits par Moïse.
Those are the five books written by Moses.
Ça s'appelle le Deutéronome.
This book is called Deuteronomy.
C'est page 180 dans la Bible à la Colombe au tout début.
Page 180 in the Green Bible.
C'est un livre qui rapporte le discours d'adieu de Moïse. Moïse a 120 ans.
Moses is 120 years old.
Il ne lui reste plus qu'un mois et demi à vivre. Et il s'adresse à la génération des Israélites qui n'a pas connu la délivrance de l'Égypte. Il a à cœur de s'assurer qu'ils connaissent ce qui s'est passé. Il va rappeler leur histoire. Nous allons retrouver des éléments que nous avons peut-être vus dans le livre des Nombres et bien d'autres. Leur histoire, c'est celle de leur infidélité à Dieu.
Their history is the story of their unfaithfulness to God.
Et le récit de la fidélité de Dieu.
And the story of God's faithfulness.
C'est aussi, il va leur redire la loi de Dieu.
And he's going to teach to them God's law.
Étymologiquement, Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi. C'est pas une autre loi divine. C'est plutôt comme une répétition de la loi. Une seconde annonce. Cette seconde génération n'avait pas entendu toute cette loi. Et Moïse veut laisser un héritage vivant. Des fois on se dit, une répétition c'est ennuyeux. C'est intéressant que même dans ce livre, il est dit que le roi devait recopier la loi. Il était dit, Deutéronome 17-18, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi. Qu'il devait recevoir auprès des sacrificateurs. À l'époque, on ne pouvait pas aller acheter des Bibles dans toutes les couleurs, dans toutes les versions. Et le peuple aussi devait recopier la loi sur des grandes pierres après être entré en terre promise.
And the people themselves had to recopy the laws onto stone tablets.
No, large stones.
Or large stones.
Ça, c'est dans le Deutéronome 27.
You find this in Deuteronomy 27.
Et peut-être qu'on se dit, oh, une répétition, ça va être, rien y avoir de nouveau.
And often we think with things that are repeated, there will be nothing new.
En fait, il va s'agir aussi d'un commentaire. Il va approfondir les choses. Et nous savons aussi que la répétition, c'est la mère de la connaissance.
And we see that repetition is the father of knowledge.
Combien de fois nous devons répéter
how often do we need to repeat
pour que nos enfants comprennent.
Before our children understand that.
Paul lui-même disait « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses parce que pour vous c'est une sécurité. »
Paul wrote to us that he wasn't worried about repeating things because it would be a guarantee.
Pierre aussi disait dans 2 Pierre « J'estime juste aussi, longtemps que je suis dans mon corps, dans cette tente, il disait, de vous tenir en éveil par mes rappels. »
And Peter tells us that he also, as long as he was in his body, would remind them of things.
Et donc Moïse aussi, il avait écrit cette loi, il l'avait remise au sacrificateur.
So Moses wrote the law and gave it to the priest.
Et donc, il avait son discours, il l'avait écrit lui aussi. Dans Deutéronome 31:10, il est dit que tous les 7 ans, le livre devait être lu en entier, publiquement, à voix haute. Ça nous rappelle ce projet de lecture publique de la Bible. Le 13 et 14 avril. Vous pensez que c'est une chose nouvelle, une idée révolutionnaire? En fait, c'est aussi vieux que l'Ancien Testament. Nous ne prévoyons que de lire le Nouveau Testament. Mais ce serait déjà une bonne chose que des gens puissent entendre dans la rue la parole de Dieu. Donc encore une fois, si vous avez une petite envie ou si ça vous intéresse, regardez cette feuille d'inscription.
So again, I'd like to encourage you if you have a desire or are interested to go back and sign up afterwards.
Ce qui est intéressant, c'est que cette lecture publique de la loi, des 10 commandements et de toutes les lois attenantes.
What's interesting about this public reading of the Ten Commandments and the other laws
devait être lu pendant la fête des tabernacles.
Was to occur during the Feast of the Tabernacles.
Et en fait, cette fête était un rappel justement de la provision, de la fidélité de Dieu dans leur traversée du désert.
And this feast was a celebration of the faithfulness of God and His provision during their crossing of the wilderness.
Et c'était construisaient des huttes pour se rappeler que le Seigneur avait pourvu à leur habitat dans le désert.
And they built small huts to remind themselves that God provided living places for them.
Et c'était un moment très festif, très joyeux.
And it was a very festive, happy, joyful occasion.
Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu leur faisait lire la loi? Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si le 14 juillet, on nous lisait le code pénal dans la rue. Avant le bal des pompiers, 4 heures de lecture. Ou plus.
4 hours of reading or more.
Pourquoi?
Why?
J'aime bien la réponse que donne un pasteur de Calvary, John Corson.
There's a Calvary pastor named John Corson who gives an answer.
Qui dit qu'il est important, bien sûr, de connaître la parole de Dieu pour connaître Dieu.
He says it's important to know the word of God so we might know God.
On pourrait d'abord la lire pour connaître des règles de vie. Si vous parlez avec des musulmans de la Bible, souvent ils vous vont dire, mais où est-ce que sont les règles de vie? Où est-ce qu'il est dit qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour? En fait, il s'agit de connaître Dieu par la parole.
The goal through the word is to know God,
de connaître ses attributs,
and to know his attributes,
sa nature, son caractère.
His nature, his character.
Ceci va nous conduire à l'adorer, à le louer. avec encore plus de passion, plus de joie. Il nous fait des étudiants de la parole, mais aussi des adorateurs du Seigneur. Si nous venons seulement étudier la parole de Dieu, alors nous allons avoir une connaissance intellectuelle. Il ne va pas y avoir de passion de Dieu. De la même façon, si nous venons seulement avec plein de passion pour adorer Dieu, et que nous n'avons pas de connaissance précise sur sa nature, son caractère, ce qu'il a fait dans l'histoire, alors l'adoration, elle va être superficielle. Le dimanche matin, ça va y aller. Il va y avoir plein d'émotions. Mais dès qu'arrivent les épreuves, dès qu'arrive le lundi, alors cette adoration superficielle, elle ne va pas nous conduire, elle ne va pas nous soutenir. L'adoration, c'est adorer Dieu en esprit. La parole de Dieu, c'est adorer Dieu en vérité. Il faut cet équilibre absolu. Jésus a dit dans Jean 4, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche.
John tells us in John 4 that the hour has come for the true worshipers of God, that we need to be worshiping God in spirit and in truth.
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth.
Chose intéressante à noter, c'est que le livre de l'Ancien Testament que l'on trouve cité le plus souvent dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas les psaumes. C'est le livre du Deutéronome. Plus de 100 fois, il est cité. Pour vous donner un aperçu, même Jésus a cité ce livre plus qu'aucun autre livre de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 4, vous vous souvenez de la tentation de Jésus-Christ au désert? Le diable lui disait d'ordonner à ses pierres que les pierres deviennent des pains. Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est le Deutéronome 8:3. Il y a un autre passage qui est tiré des psaumes. Mais au verset 7, lorsque pour répondre au diable qui voulait le suggérer de sauter, que les anges viendraient le sauver. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c'est encore le Deutéronome. Lorsque le diable voulait son adoration, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte.
And when the devil wanted to praise and worship, Jesus answered, "Be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only."
Donc ceci nous dit bien que Jésus était très familier avec celui du Deutéronome.
So these things show us that Jesus was very familiar with the book of Deuteronomy.
Si vous avez un héros en dehors de Jésus,
other than Jesus.
Vous savez, vous aimez bien connaître ce qu'il aime.
You like to know well what he likes.
Lorsque les jeunes s'entichent d'une idole, entre guillemets, de la chanson.
When people make a hero out of a singer,
ils commencent à s'habiller comme lui,
start dressing a little like him,
à lire des articles pour voir ce qu'il mange,
and then read articles about what he eats,
la façon dont il marche.
The way he walks.
Si vous voulez connaître Jésus,
if you want to know Jesus,
vous voudrez connaître ses lectures favorites.
You want to know his favorite reading material?
Deutéronome, c'était apparemment un de ses livres qu'il connaissait le mieux. Ou ceux qu'il utilisait le plus, il connaissait tous les autres, j'en suis sûr. Et encore une fois, ce n'est pas une simple répétition de ce qu'on a pu voir déjà dans les quatre premiers livres. C'est un condensé, résumé, approfondi.
It's a condensed version, a summary.
Comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises dans 1 Corinthiens 10,
and as we often saw several times in 1 Corinthians 10,
ces choses ont été écrites pour nous.
These things were written for us,
pour nous enseigner, nous qui sommes arrivés à la fin des temps.
To teach us, those who are coming to the end times.
Ce sont des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. On a vu en étudiant le livre des Nombres que ces histoires dans l'Ancien Testament s'appliquent à notre vie aujourd'hui de chrétiens vivant en 2001.
But these stories from the Old Testament apply to our lives as believers in the year 2001.
Ce sont des faits historiques qui se sont passés.
They are historical things that actually took place.
Il y a eu des pays comme l'Égypte, comme la traversée de la mer des Joncs, etc.
The country of Egypt, the Red Sea.
Mais Dieu utilise ces endroits historiques et géographiques comme des analogies pour nous.
God uses these historical places, as analogies for us.
L'Égypte, vous savez, ça représente le monde.
Egypt is a symbol of the world.
Le système de valeurs qui rejette Dieu dans notre société.
And the system of values that reject God in our society.
Pour les Israélites, c'était un endroit d'esclavage, de difficulté, de peine.
For the Israelites, it was a place of slavery, of difficulties, of pain.
Pour nous, nous allons voir que c'est une représentation, une analogie, ou ce qu'on appelle en langage biblique une typologie, une préfiguration.
For us, it's going to be an analogy, or as Bible scholars use the word, a type. Or a prefiguration,
de l'esclavage de notre vieille nature,
of the slavery of our old nature,
de la vie qui est dominée par ce que la Bible appelle la chair,
of the life that is dominated by what the Bible calls the flesh,
la nature dont nous héritons à notre naissance physique,
it's the nature we inherit at our physical birth.
Et le voyage des Israélites pour arriver en terre promise, c'est en quelque sorte la vie chrétienne.
And the travels of the Israelites to get to the promised land is a type for the Christian life.
La terre promise,
the promised land,
c'est pas le paradis.
Is not a symbol of paradise or heaven.
La meilleure preuve, c'est que en terre promise, nous savons qu'il va y avoir beaucoup de batailles.
The best proof is that we will see in the promised land there are many battles.
Et que le Seigneur nous promet qu'au paradis, ce sera le repos éternel.
And that the Lord promises us in paradise, in heaven, we will have eternal rest in His presence.
Dans la terre promise, c'est la vie chrétienne dans l'esprit.
The promised land is a type for the Christian life in our spirit.
In the spirit. C'est la vie dominée par l'esprit.
It's a life dominated by the Holy Spirit.
C'est la vie de victoire.
It's a life of victory.
Une vie de combat, mais une vie de victoire. Et nous savons, la Bible le dit à maintes reprises, que notre vie de chrétien, c'est un combat spirituel.
And we know that our Christian life, the Bible tells us in many places, is a spiritual battle.
Contre la chair et l'esprit.
Between the flesh and the spirit.
Est-ce que vous avez conscience de ça?
Are you aware of this? Have you experienced it?
Est-ce que vous êtes trop conscient de ça?
Are you too aware of it?
Je suis trop conscient de ça.
There is too aware of it.
Et c'est pour ça que les leçons que nous avons à tirer de cet Ancien Testament, du livre de Deutéronome, sont tellement de valeur pour nous. Paul disait déjà, la chair a des désirs contraires à l'esprit.
Paul tells us that the flesh has desires that are opposed to the spirit.
Et l'esprit en a de contraires à la chair.
And the spirit has desires opposed to the flesh.
Ils sont opposés l'un à l'autre.
They are opposed to one another.
Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez.
So that you end up not doing what you desire.
Paul lui-même, dans Romains 7, exprimait cette frustration, ce désespoir.
Paul himself expresses this despair in Romans 7.
Il disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais.
He says in 7, verse 19, the good that I wish I do not do, but I practice the very evil that I do not wish.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive d'avoir ce sentiment?
Is that a feeling that you've experienced, that has ever happened to you?
Finalement, il crie de désespoir, il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
And Paul finally ends with, woe is me, who will deliver me from this?
Il arrive à une solution, this body of death.
This body of death, and then he comes to a solution.
C'est le fameux chapitre de Romains 8.
And that's the famous chapter, Romans 8.
Où il n'est plus question de Paul,
and it's no longer dealing with Paul,
mais il est question de l'Esprit.
But the Spirit.
L'Esprit qui donne la victoire.
The Holy Spirit that gives victory.
Romains 8, c'est la terre promise.
Romans 8 is the promised land.
Nous allons voir, tout ce qui a retenu les Israélites en route peut aussi nous empêcher d'arriver à cette vie dans l'esprit de victoire.
And we will see that the things that held back the Israelites in their voyage are the same things that will hold us back in our lives.
Nous allons commencer à lire ce livre du Deutéronome.
So let's begin reading the book of Deuteronomy.
Page 180 dans la Bible à la Colombe, chapitre 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséros et Dizabab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin des monts de Seir jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux Israélites selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné pour eux. Donc ils ne sont pas encore en terre promise. Ils sont juste de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse rappelle, on peut ne pas remarquer ces versets, mais verset 2, il y a 11 journées depuis Horeb jusqu'à Kadesh Barnéa. Horeb, c'était le mont Sinaï. Kadesh Barnéa, c'était l'entrée sud de la terre promise. Ça représentait 200 km ou 240 km à peu près. Et nous avons vu en étudiant nombre, et c'était dit ici que ça n'aurait dû prendre que 11 jours. Mais c'est seulement verset 3, dans la 40e année, qu'ils arrivent. 40 ans à tourner en rond par manque d'obéissance, par manque de foi.
40 years of going around in circles because of the lack of obedience or faith.
Ils avaient peur des géants dont ils avaient entendu parler.
They were fearful of the giants they had heard about.
Moïse devait pleurer en prononçant ces mots.
Moses must have been crying as he said these words.
Parce que nous aussi, nous aurons des larmes, comme sont avec Dieu.
Do we have tears in our eyes?
Peut-être vous me dites, mais il n'y a pas de larmes au paradis.
And you might say, well, there's no tears in heaven.
Il est vrai qu'il est dit, Dieu essuiera toute larme.
And it's true, it's written that God will wipe away every tear.
Mais je crois que trop souvent,
often,
pour la plupart d'entre nous,
for most of us,
nous regarderons en arrière notre vie et nous dirons que de temps perdu.
We'll look back on our lives and say, see how much wasted time.
J'aurais pu avoir cette vie de victoire en 11 jours.
We could have had a life of victory in 11 days.
Mais par manque de foi, par manque d'obéissance,
but because of a lack of faith, a lack of obedience,
j'ai traîné.
You carried it out, you dragged it out.
J'ai raté des occasions.
You missed opportunities.
Il nous faut apprendre pour éviter de tourner en rond.
We need to be learning to keep ourselves from just going around in circles.
Encore une fois, tout ça c'est un exemple pour nous.
Again, this is all an example for us.
Le Seigneur lui-même leur disait, verset 6,
and the Lord himself told them in verse 6,
quand ils étaient près du mont Sinaï, vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Il est temps de bouger.
When they were close to Mount Sinai, he said, you have stayed long enough at this mountain. It's time to move.
Nous aussi, voyons qu'il est temps de progresser dans notre vie spirituelle. Parce que nous campons toujours au Mont Sinaï. Nous avons reçu le salut, nous avons reçu les commandements. Mais il n'y a pas de progrès dans notre vie chrétienne. Nous n'accaparons pas les promesses de Dieu. Verset 7, le Seigneur leur disait, allez-y, partez, allez dans les montagnes des Amoréens, dans tous les environs, etc. Le territoire qu'ils devaient prendre devait aller de jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de leur donner ainsi qu'à leur descendance après eux. Le territoire que Dieu leur avait promis, cette terre promise physique, mesurait près de 800 000 km². C'est-à-dire près d'une fois et demie la superficie de la France.
And that's about one and a half times the
area
of France.
C'est vrai qu'on en compare mal parce qu'on voit l'image de Jérusalem entourée par ses ennemis.
We have trouble comparing it to that size because we see Israel always surrounded by its enemies.
Il est rare de voir la France et Israël sur la même carte.
And it's rare that we would see on a map France next to Israel.
L'Israël ne mesure que près de 27 000 km² aujourd'hui en comptant les territoires occupés.
Israel actually measures about 27,000 kilometers with all the occupied territories.
Ça représente 30 fois moins que ce que Dieu leur a promis.
And that is 30 times less than what God promised them.
Et même au sommet de leur expansion sous Salomon, jamais ils n'ont occupé ce territoire.
And even at the height of their glory and expansion under Solomon, they never occupied all the land promised.
L'application, c'est que nous, le Seigneur nous donne une terre promise de promesses.
And the application is that God gives us a promised land of promises.
Mais combien de ces promesses sont vraiment dans notre vie?
But how many of these promises are actually in our lives?
Combien de ces promesses utilisons-nous pour diriger notre vie?
How many of these promises do we use to direct our life?
Le Seigneur a dit, plutôt c'est David qui disait, je n'ai jamais vu le Fils du Juste mendier du pain.
David said that he's never seen the Son of the Righteous begging for bread.
Et peut-être qu'on se sent appelé à changer de carrière, à travailler peut-être pour le Seigneur.
Maybe we're questioning if we should leave a job and work for the Lord.
On se dit, d'accord, il y a cette promesse, mais il faut être réaliste.
And we're thinking, they promised us this, but we have to be realistic. Et
puis il faut assurer la retraite.
And we have to provide for our retirement.
C'est un exemple parmi des centaines d'autres qu'on pourrait prendre.
It's just one example among hundreds of others we could give.
Parce que nous prenons qu'une toute partie des promesses de Dieu à notre compte.
And we only living with a very small portion of God's promises in our life.
Honte à nous.
We should be ashamed.
Moïse rappelle aussi que il a établi des hommes à côté de lui pour gérer tout ce peuple d'Israël. Contestation. Prenez des hommes sages, intelligents et connus dans vos tribus et je les mettrai à votre tête. Verset 14, vous m'avez répondu en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Et j'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs des 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme juges ou officiers dans vos tribus. C'est intéressant parce qu'en fait, Moïse a appris ça de son beau-père Jéthro. Et puis le Seigneur lui avait lui-même dit dans le livre des Nombres aussi de prendre des hommes pour l'aider dans sa tâche. Ce qui est intéressant, c'est que de remarquer qu'il prend des gens qui sont déjà au travail. Dans la Bible, les bergers que le Seigneur prend pour son peuple, sont ceux qui sont déjà avec les brebis. Vous vous souvenez de David? Quand Dieu l'a appelé, il s'occupait de son troupeau. Quand le buisson ardent est apparu à Moïse, Moïse s'occupait de son troupeau, de ses troupeaux.
When the burning bush appeared to Moses, he was also watching his flock.
La semaine dernière, dans 1 Corinthiens 16, on a vu que Paul disait que les chrétiens devaient se soumettre à de tels hommes, ainsi qu'à tous ceux qui prennent part à l'œuvre et qui travaillent.
Last week in 1 Corinthians 16:16, we see that the Lord is telling them or Paul, you should be in subjection to such men.
Les responsables dans l'église, ça doit être ceux qui font le travail. Si vous aspirez à des responsabilités, commencez par travailler.
Amen.
C'est pas un problème parmi nous, mais dans beaucoup d'églises, ça peut être un problème. Les gens, parce qu'ils ont une formation, voudraient accéder à des responsabilités.
Not a problem here amongst us, but in many churches, people are seeking positions of leadership.
Mais s'il n'y a pas l'amour des brebis,
but if there's no love for the sheep,
ils n'ont aucune aucune place en tant que responsable. Moïse a donc leur rappelle ceci, et puis il leur rappelle le verset 19. Leur manque de foi et les murmures. Nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier ce grand et redoutable désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu a mis le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Sois sans crainte et sans effroi. Ne pas perdre courage. C'est précisément ce qu'ils ont fait. Verset 22, vous vous êtes approchés de moi pour me dire, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Et verset 23, cet avis me paraît bon et je prie 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. C'est intéressant de faire le rapprochement aussi avec le livre des Nombres, parce que dans le livre des Nombres, il semble que ce soit une commande du Seigneur. D'aller d'abord explorer. En fait, on voit ici que c'est le peuple qui a eu cette idée, qui en a parlé à Moïse. Et Moïse apparemment ne prie pas. Cet avis me parut bon. Et puis, nous savons le reste de l'histoire. 12 espions. 10 qui ne voient que les géants et les murailles, les villes fortifiées.
10
et puis 2, Josué et Caleb, qui voient la puissance de Dieu, qui disent pas de problème avec Dieu, c'est gagné. Mais verset 26, vous n'avez pas voulu y monter, vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Péché de rébellion. Souvent, l'incrédulité, le manque de foi va de pair avec la rébellion. Si on ne croit pas à ce que le Seigneur nous dit de faire, on va faire autre chose, c'est de la rébellion. Et voyez ce qu'ils disent, verset 27, vous avez murmuré dans vos tentes, vous avez dit c'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Murmurer en privé. Murmurer dans nos tentes. Est-ce que nous aussi nous murmurons? Chose intéressante, c'est qu'il faut être au moins 2 pour murmurer. Vous avez déjà remarqué ça? On peut rouspéter tout seul, mais on ne va pas bien loin. Mais dans un couple, ça peut y aller là. Avec un ami, ou plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est que juste quelques versets plus loin, il est dit que l'Éternel, verset 34, l'Éternel entendit le bruit de vos paroles.
But then let's move a few verses further, verse 34, the Lord heard your word.
On peut penser que ça va rester entre nous.
And we may be thinking it will stay amongst us.
Mais déjà le Seigneur a entendu. Et puis le murmure, ça conduit à au blasphème. Ils rouspètent. Et puis ils disent même, c'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qu'il nous a envoyés ici mourir. Pour nous détruire. Quelle chose horrible à dire. Il aurait pu, c'est vrai, refermer la mer Rouge ou la mer des joncs sur eux quand ils sont passés, si ça avait été son intention. Mais la rébellion et le murmure pervertissent notre appréciation des choses. Le devoir un verre à moitié plein, on va le voir à moitié vide. C'est une chose horrible que d'accuser Dieu, de manquer d'amour. Et même ça doit vous gêner lorsque les gens vous disent « Mais où est ton Dieu ?» lorsqu'on voit les misères, les catastrophes. Je crois que si nous ne disons rien à ce moment-là, nous participons à ce blasphème. Nous pouvons dire, expliquer que ce n'est pas l'idée de Dieu. C'est le péché des hommes. C'est pas le monde tel que Dieu le veut. Au contraire, il est patient. Il attend que le plus grand nombre vienne à le connaître. Au contraire, verset 30, l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Il leur dit, Dieu ne vous a pas abandonné dans le passé, pourquoi est-ce qu'il va vous abandonner dans le présent ? Puis verset 31, puis au désert, tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils. Je pense peut-être que c'est ce verset qui a inspiré cette histoire de pas dans le sable dont nous avons déjà parlé. C'est vrai. Ces traces de pas sur le sable de deux personnes, le Seigneur et la personne qui écrit ce poème. Elle voyait sa vie en rétrospective. Elle disait, comment ça se fait qu'à partir du moment où j'ai eu des difficultés, il n'y a plus que mes traces de pas, il n'y a plus qu'une seule paire de pas. Et Jésus dit, non, ça c'était les miennes. Je te portais. L'Éternel ton Dieu nous porte comme un homme porte son fils. Dieu veut vous porter. Dans vos moments difficiles, dans vos crises. Paul dira plus tard dans 2 Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Explorer, reconnaître à l'avance. C'est marcher par la vue, non par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Believe.
Must believe that he exists and that he is a rewarder of those who seek him.
Dans notre monde où nous recherchons la sécurité à tout prix, nous aimons bien explorer les choses. On commence un travail à l'essai, voir comment ça se passe. Si nous nous sentons appelés à devenir missionnaires, nous allons d'abord en mission de court terme. Pour voir si je pourrais m'y faire, si ça pourrait me plaire. Mike et Becky, j'ai toujours été impressionné par ça. Ils sont venus pour Nice sans être venus jamais à Nice. Ils sont venus pour rester à Nice. Moi-même, je connaissais déjà Nice avant de venir. C'est des domaines variés. Ce n'est peut-être pas très grave. Un domaine où c'est plus grave, c'est dans le domaine du mariage. Maintenant, on dit qu'il faut vivre ensemble avant le mariage. Il faut aller espionner un peu, voir si ça pourra marcher. C'est pas du tout la volonté de Dieu. Et c'est pas du tout la bonne décision. Les psychologues américains ont été forcés à contre-cœur de reconnaître une chose.
American psychologists have been forced against their will to admit.
Ça les embêtait, mais les chiffres étaient là.
They were bothered to have to admit it, but the figures were there.
Et les chiffres montraient que les gens qui ont vécu ensemble avant le mariage ont 5 fois plus de chances de divorcer que ceux qui ne l'ont pas fait. Dans un sens, ce n'est pas surprenant. Si les gens ont des convictions auxquelles ils croient et qu'ils sont assez forts pour obéir à la première partie de ne pas vivre ensemble en dehors du mariage, s'ils peuvent résister à la pression ambiante qui nous dit mais c'est logique. Quand on achète une voiture, on va faire d'abord un tour avec. Ça, c'est la logique du monde. Mais c'est le mensonge. Ceux qui ont la force de résister à cette pression vont résister à la pression qui dit « Oh, mais maintenant, l'amour romantique est parti de votre relation. Pas en trouver une autre. C'est merveilleux, l'amour, on chante. » Sans arrêt. Non, Dieu ne recommande pas qu'on aille explorer. Même cette idée d'exploration, ce n'était pas son idée. Pourquoi, verset 33, « L'Éternel, votre Dieu, il était allé devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. » Dieu faisait l'exploration pour eux. C'est un meilleur explorateur. Il voit la vérité. Il sait que cette personne est la personne qu'il vous faut pour votre vie. Il sait que vous allez vous sentir bien au fin fond de la jungle. Dieu nous précède en tout lieu et en toutes circonstances. Il prépare un endroit pour nous. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il nous prépare pour l'endroit. Dieu les protégeait, les guidait. Vous souvenez, la nuée, c'était pas quelque chose comme on voit des fois sur les tableaux, les flanelles graphes, comme on dit en français, les tableaux avec les enfants là, à l'école du dimanche, un petit nuage qui est devant. C'était un nuage qui les protégeait des rayons du soleil, au-dessus d'eux. C'est le psaume 105 qui le dit. Et donc, leurs ancêtres ont dû faire face aux punitions, aux conséquences. Verset 34, l'Éternel a entendu le bruit de vos paroles. Et donc, il fait le serment solennel dans son indignation qu'aucun homme de la génération méchante ne verrait la terre promise, excepté Caleb et Josué. Dans cette 37, Moïse montre son humanité, il essaye de les blâmer pour la punition que le Seigneur lui a imposée. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Et puis il annonce que c'est Josué, son assistant, qui allait y entrer. Et lui demande une chose difficile, il lui demande de le fortifier. Parce que c'est lui qui va entrer en terre promise. C'est un peu comme si une promotion vous passe sous le nez. Et votre patron vous demande d'aider la personne qui a été promise à bien réussir dans son travail. Apparemment, Moïse, qui était le plus humble des hommes, a réussi dans cette tâche. Puis il raconte le petit épisode où le Seigneur leur disait d'attaquer quand il était avec eux. Et ils n'avaient pas obéi. Ils n'avaient pas attaqué. Ils s'étaient pris une rouste. Et puis l'autre fois, ils se repentent en apparence. À votre tour, vous avez pleuré devant l'Éternel. Et là, ils ont agi par présomption. Ils ont attaqué alors que le Seigneur leur disait qu'il n'était pas le moment, qu'il n'était pas avec eux. Et là, c'est un peu comme nous. Ils ont désobéi deux fois. Désobéissent par manque de foi. Ou ils désobéissent par présomption. Oh oui, on a toujours fait ça, l'évangélisation, ça marche, c'est pas la peine de passer des heures dans la prière, allons-y. Le problème dans les deux cas, c'est que on veut contrôler la situation.
The problem in both cases is you want to be in control of the situation.
C'est mon manque de foi ou c'est mon expérience qui me font agir.
It's my lack of faith or my experience that prompts me to act.
Mais faire confiance au Seigneur, ça c'est une autre histoire.
But to trust in God is another story.
C'est pas mon but premier.
It's not my primary goal.
Je crois en Dieu, mais il faut être prudent.
I believe in God, but one has to be careful.
Et c'est vrai qu'il faut pouvoir reconnaître la voix du Seigneur.
And it's true, we need to be able to discern the voice of the Lord.
Comme toujours, ça, c'est une invitation à une vie intime avec lui.
We are always being invited to an intimate relationship with him.
La foi va conduire à la vie abondante.
And faith will lead to an abundant life.
Le manque de foi, la rébellion, va avoir des conséquences tragiques, une vie pénible.
Lack of faith, rebellion will have tragic consequences and painful results.
Nous allons voir qu'en fait, un des thèmes de Deutéronome, c'est l'amour. L'amour de Dieu et des autres.
Love of God and of others.
Et l'aspect parallèle qui ne peut pas être dissocié, c'est l'aspect de foi et d'obéissance.
And parallel to that would be the aspect of faith and obedience.
C'est intéressant lorsqu'on est à plusieurs endroits dans la Bible,
it's interesting when we're at several different places in the Bible,
de voir que les mêmes choses reviennent dans notre étude.
To see that the same things keep reappearing in our study.
Un mercredi, il n'y a pas si longtemps, on faisait un diagramme, on essayait de faire un diagramme d'après 1 Jean.
A few Wednesdays ago, we were doing a diagram from 1 John.
Entre la position respective de la nouvelle naissance, de la foi,
between the respective positions of new birth and faith,
de l'obéissance et de l'amour.
And obedience and love.
Nous avons vu que toutes ces choses se tiennent.
And we saw that all these things go together, hold each other up.
On ne peut pas choisir.
We can't choose.
J'aime Dieu, mais je n'y crois pas.
I love God,
c'est pas très
but
logique.
I don't believe him.
Ou j'aime Dieu, mais je n'ai pas envie d'obéir.
Or I love God, but I don't want to obey him.
On a même dit qu'obéir, c'est une façon de connaître et d'aimer Dieu.
And we even saw that to obey God is a way of loving him.
Donc j'espère, lorsque nous allons progresser dans Deutéronome, nous allons aller à grands pas. Pas aussi précisément que nous l'avons fait dans 1 Corinthiens. Sinon, on y sera encore en
2005.
Mais encore une fois, ce livre, c'est un livre qui doit nous exciter.
But again, this book should be one that excites us.
Autant que le Seigneur l'utilisait avec un esprit de discernement dans les situations, de dire, ah mais oui, c'est ça, c'est comme l'histoire des Israélites. Et donc nous allons revoir, parce que nous sommes des lents à comprendre. Amen.
We're going to look at the same things again because we are slow to understand, aren't we?
Prions.
So let's pray.
Seigneur, c'est vrai que lorsque nous y pensons, nous devons toujours apprendre les mêmes leçons.
When we think about it, it's true that we often have to learn the same lessons.
Mais tu es le grand pédagogue, le grand enseignant.
But you are the great teacher.
Et si tu répètes des choses que tu nous as déjà dites, Seigneur, c'est pas par accident.
And if you repeat things that you have already told us, it's not an accident.
C'est parce qu'elles ont besoin d'être répétées.
It's because they need to be repeated.
Seigneur, garde-nous dans le domaine du murmure.
Lord, protect us from that area of murmuring.
Si dans notre couple, l'un a tendance à murmurer, que l'autre ait tendance à l'arrêter, ou vice-versa.
Lord, if amongst the couples, one person begins murmuring, let the other stop them.
Si nous sommes avec des amis que là aussi ils disent non, c'est du murmure. Seigneur, pardonne-moi pour mes murmures. Contre toi, contre autrui. Seigneur, pardonne nos rébellions. Nos manques de foi, nos manques d'amour. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit. Remplis-nous de joie et de sentiments à ton égard, Seigneur. Apprends-nous à lire ta parole en te voyant et en ressentant ton amour. Pas comme un vieux texte d'information. Et surtout, Seigneur, aide-nous à voir combien il est pertinent pour aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à passer de l'Égypte de la chair à la terre promise de l'Esprit. Sans une traversée du désert qui n'en finit jamais. Prends contrôle de nos vies, Seigneur, nous te le demandons par le nom de Jésus.
Lord,